suivant les dessins de Verulamius.
Les vicissitudes des six groupes ne s'étaient pas limitées à la recherche de la carte. Il est probable que les Templiers, dans les deux premières parties du message, celles dont disposaient les Portugais et les Anglais, faisaient référence à un pendule, mais les idées sur les pendules étaient encore peu claires. Une chose est de faire danser un fil à plomb, et une autre de construire un mécanisme d'une précision telle qu'il est illuminé par le soleil à la seconde pile. Raison pourquoi les Templiers avaient calculé six siècles. L'aile baconienne se met au travail dans cette direction, et elle essaie d'attirer de son côté tous les initiés qu'elle cherche désespérément à contacter. Coïncidence non fortuite, l'homme des Rose-Croix, Salomon de Cos, écrit pour Richelieu un traité sur les horloges solaires. Après, à partir de Galilée, c'est une recherche forcenée sur les pendules. Le prétexte est de savoir comment les utiliser pour déterminer les longitudes, mais quand, en 1681, Huygens découvre qu'un pendule exact à Paris retarde à Cayenne, il comprend sur le champ que cela dépend de la variation de la force centrifuge due à la rotation de la Terre. Et quand il publie son Horologium, où il développe les intuitions galiléennes sur le pendule, qui le fait venir à Paris? Colbert. Le même Colbert qui fait venir à Paris Salomon de Cos pour qu'il s'occupe du sous-sol. Lorsqu'en 1661, l'Accademia del Cimento devance les conclusions de Foucault, Léopold de Toscane la dissout en l'espace de 5 années et reçoit aussitôt de Rome, comme occulte récompense, un chapeau de cardinal. Mais ce n'est pas tout. La chasse aux pendules continue même au cours des siècles suivants. En 1742, un an avant la première apparition documentée du comte de Saint-Germain, un certain Deméran présente un mémoire sur les pendules à l'Académie royale des sciences. En 1756, quand naît en Allemagne la stricte observance templière, un certain Bouguier écrit sur la direction qu'affectent tous les fils à plomb. Je trouvais des titres fantasmagoriques comme celui de Jean-Baptiste Biot de 1821. Recueil d'observations géodésiques, astronomiques et physiques exécutées par ordre du Bureau des longitudes de France, en Espagne, en France, en Angleterre et en Écosse pour déterminer la variation de la pesanteur et des degrés terrestres sur le prolongement du méridien de Paris. En France, Espagne, Angleterre, Écosse, et en rapport avec le méridien de Saint-Martin. Et Sir Edward Sabine, qui en 1823 publie « An Account of Experiment » to determine the figure of the Earth by means of the pendulum vibrating seconds in different latitudes. Et ce mystérieux Graf Féodor Petrovitch Littke, qui en 1836 publie les résultats de ses recherches sur le comportement du pendule au cours d'une navigation autour du monde, et pour le compte de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Pourquoi les Russes aussi? Et si, pendant ce temps-là, un groupe certainement d'hérédité baconienne avait décidé de découvrir le secret des courants, sans carte et sans pendule, en interrogeant de nouveau du début la respiration du serpent, il s'ensuivait que les intuitions de Salon étaient bonnes. C'est plus ou moins au temps de Foucault que le monde industriel, créature de l'aile baconienne, commence le creusement des réseaux métropolitains au cœur des métropoles européennes. « C'est vrai, disait Belbeau, le XIXe siècle est obsédé par les souterrains. Jean Valjean, Fantômas et Javert, Rocambole, tout un va-et-vient entre conduits et grands collecteurs d'égouts. Bon Dieu, maintenant que j'y pense, toute l'œuvre de Jules Verne est une révélation initiatique des mystères du sous-sol. Voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers, les cavernes de l'île mystérieuse, l'immense royaume souterrain des Indes noires. Il faut reconstituer un plan de ces voyages extraordinaires, et nous trouverons certainement une ébauche des volutes du serpent, une carte des Leys reconstituée pour chaque continent. » Verne explore d'en haut et d'en bas le réseau des courants telluriques. Je collaborais. Comment s'appelle le protagoniste des Indes noires? John Garral, presque un anagramme de Graal. Ne soyons pas extravagants, restons les pieds sur terre. Verne lance des signaux bien plus explicites. Robur, le conquérant. Hercé, Rose-Croix. Et Robur, lui à l'envers, donne Rubor, le rouge de la rose.